Shalom, peuple de Dieu. Nous allons prier pour ce moment. Seigneur notre Dieu, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous venons devant toi pour te rendre ce culte. Merci pour cette phase d'adoration conduite par les chorales, par ton serviteur qui a conduit le culte. Nous prions, Père, que tu prennes plaisir à notre adoration, mais également à notre présence. Les frères et sœurs qui ont abandonné leurs activités, mais qui sont venus parce que nous avons tous besoin de toi. Nous voulons prier, Père, que le Saint-Esprit prenne en charge ce moment, que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, parce que c'est de toi dont nous avons besoin, Seigneur. Besoin de toi afin que nous soyons des disciples affermis, comme nous venons de l'écouter dans la chanson. Non seulement l'écouter, mais nous voulons le vivre, être de vrais disciples. Il est écrit, tout disciple accompli sera comme son maître. Nous voulons être comme Jésus. Nous voulons, Seigneur, vivre comme Jésus. Nous voulons être capables de présenter Christ au monde. Du début à la fin, Seigneur, je demande que tu nous prennes en charge alors que nous allons naviguer dans les Écritures. Saint-Esprit de Dieu, parle au cœur de chacun selon ce besoin et selon tes objectifs que tu veux atteindre dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore ce soir? Je voudrais dire merci au révérend pasteur Kasereka Tsongo qui nous a donné l'opportunité de servir Dieu en tant que l'un de vos serviteurs et sous sa responsabilité comme le pasteur titulaire ou paroissial. Aussi l'occasion de dire merci à tous les consistoires. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement. Je vais nous demander encore la patience comme hier. Nous allons beaucoup plus pendant toute la semaine aller dans une approche d'étude biblique, une approche vraiment d'enseignement, de sorte que nous serons plus dans nos Bibles, afin que les choses que nous sommes en train de dire puissent avoir comme fondement la parole de Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions lire deux textes déjà à l'entrée. Ce sont des passages que nous avons lus hier. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9e et 12. C'est le texte que nous avons lu hier. Si vous avez dans votre Bible, nous allons lire ensemble. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils reconnaissent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et nous avons ajouté le deuxième texte, 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset deuxième, premier et deuxième, nous lisons rapidement. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Paul est en train de montrer que si quelqu'un vous regarde, frère et sœur, papa et maman, est-ce qu'on peut retrouver l'image, le profil du serviteur de Christ? Mais il dit des dispensateurs des mystères de Dieu. Dans d'autres versions, on parle des provisions divines. On parle des grâces divines dans une version dynamique. Que nous soyons trouvés des distributeurs des grâces de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Hier, nous avons commencé à parler de ce thème merveilleux, mener une vie diaconale parfaite et sainte pour la gloire de Dieu. C'est le thème qui nous a été proposé et nous sommes dans cette semaine diaconale. Et nous avons parlé de 4 points hier que je vais rappeler rapidement avant de pouvoir donner la pensée du jour. Nous avons commencé à parler hier du but de l'enseignement. Pourquoi une semaine diaconale? Pourquoi une vie diaconale dans la vie du chrétien? Comme Paul est en train de dire, pendant que vous êtes encore sur la terre comme des étrangers et des voyageurs, je vous recommande une conduite, je vous recommande des bonnes œuvres. Nous étions en train de dire que si nous ne comprenons pas le pourquoi de la semaine diaconale, si nous ne comprenons pas le pourquoi d'une vie diaconale comme faisant partie de notre vie chrétienne, nous ne pouvons pas vivre cela. Ça va être même un gêne, ça va être un dérangement. La première chose, nous avons dit, c'est un appel divin sur pour tous les chrétiens. Ça veut dire un appel de Dieu. Dieu nous appelle à la vie diaconale. Tout à l'heure, on va revenir sur le sens de la vie diaconale. La deuxième chose, nous avons dit, c'est tout un ministère. Quand il dit, Pierre, ayez au milieu de païens une conduite, et que même s'ils peuvent vous calomnier, s'ils peuvent vous accuser, mais en réalité, lorsqu'ils vont regarder de près, ils vont constater vos bonnes œuvres. Et Paul dit, écrivant aux Corinthiens, il dit, qu'on nous regarde comme serviteurs de Christ. Si quelqu'un il te regarde, si quelqu'un t'observe de près, qu'il puisse réellement le retrouver, les traces de Christ. Vous savez qu'il y a des gens qui nous observent, même sans qu'on le sache. Moi, en tant que pasteur, nous avons été dans plusieurs coins de la ville. Parfois, nous parlons à 2 000 personnes, 5 000 personnes. C'est l'assemblée qui nous voit, mais nous, on ne voit pas les gens. Tu vas arriver dans une boutique, quelqu'un il t'observe. Tu arrives dans un service, il fait semblant comme s'il ne te connaît pas. Et à la fin, quand tu termines, c'est là qu'il te salue. Bonjour, pasteur. Comme s'il était en train de... Bon, Mtungaji a t'a dit comporter dans mon agagnable. Donc, même nous, en tant que chrétiens, toute l'Église, nous sommes observés. Et Paul dit que si les gens nous observent, si les gens nous regardent, que nous soyons regardés comme serviteurs de Christ. Il dit par-dessus tout que nous soyons regardés comme des personnes qui distribuent les grâces de Dieu. Et c'est là que Pierre pouvait dire, vous avez été mis à part comme des personnes qui doivent véhiculer les vertus de Dieu. Donc nous avons montré que c'est un service, c'est un ministère. La vie diaconale, c'est une vie, c'est un ministère, c'est un service. La troisième chose, nous avons mentionné que la vie diaconale, c'est une stratégie de Dieu pour répondre aux besoins. Nous avons mentionné les besoins, les défis et même les souffrances. Il y a des besoins tout autour de nous. Nous reviendrons sur cela tout à l'heure. Il y a des défis tout autour de nous. Les gens font face à des défis. Les défis, c'est des problèmes peut-être auxquels ils n'ont pas de réponse, qui les dépassent, des situations compliquées. Les gens sont fatigués, les gens sont découragés, les gens sont dépourvus de tout le sens même de la vie. Il y a des personnes, peut-être chez nous en Afrique, ce n'est pas encore très fréquent, mais quand nous suivons par exemple les statistiques à gauche, à droite, dans les pays occidentaux, les gens se suicident. Donc les gens ont envie d'arrêter la mort. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, au moins dans mon parcours, à un moment, c'est arrivé. J'étais tellement malheureux, j'étais tellement souffrant, j'étais comme abandonné. Ça, c'était au début de ma foi, où tu regardes ta vie, tu regardes ta famille, tu regardes, tu essayes ceci, ça ne marche pas. Mais tu te dis, mais Seigneur, et à quoi ça sert la vie? À quoi ça sert la vie? Et il y a de toutes ces situations, et nous avons montré que la vie diaconale, c'est une stratégie de Dieu qui permet à Dieu de passer par des humains pour répondre aux besoins des autres, pour répondre aux défis des autres, et même pour atténuer ou si pas atteindre les autres à leur souffrance. Et donc nous avons montré que la vie diaconale, c'est une nécessité, c'est un besoin. Et donc celui qui obéit, celui qui se conforme, celui qui s'engage dans une vie diaconale, il est plutôt en train d'obéir à Dieu lui-même. Et la quatrième chose, hier, nous avons montré que la vie diaconale, elle a des exigences. Et même le thème lui-même est indicatif quand il dit une vie diaconale sainte et parfaite. Ça veut dire que nous ne sommes pas en train de vivre une vie diaconale selon nous-mêmes. Déjà parler de la sainteté, une vie sainte, ça nous connecte à Dieu. Parler d'une vie parfaite, ça veut dire ça obéit à des valeurs, ça obéit à des standards. Et donc, si nous allons aller par extension, les récompenses, les bénéfices qui sont attachés aux hommes et femmes qui sont engagés dans la vie diaconale sont proportionnels au degré de notre conformité aux exigences que Dieu attache à cet appel divin qu'est la vie diaconale. Et nous avons donc besoin de parler de cela tout au long de la semaine. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions nous focaliser sur le deuxième point de notre enseignement, la signification ou la compréhension large de la vie diaconale. Je sais que peut-être avant, ça a été abordé, et ce soir, j'aimerais que nous ayons une compréhension biblique. Quand nous parlons de la vie diaconale, nous parlons de quoi? Nous disons quoi en réalité? Non pas selon la tête, selon notre intelligence, mais selon ce que la Bible nous donne. Et donc, je veux rapidement et pendant quelques minutes parler dans trois directions. Je parlerai du contenu. Quand nous parlons de la signification, de la compréhension, ça veut dire quand je dis je m'engage dans la vie diaconale, je transporte quoi? J'offre quoi? Qu'est-ce que je peux offrir? Et quand j'offre, quand je transporte quelque chose, le contenu de la vie diaconale, quelle est la finalité? Quels sont les buts? À la fin, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat? Et le troisième niveau de notre communication de ce soir, nous allons parler des bénéficiaires. Qui sont, bibliquement parlant, les bénéficiaires de la vie diaconale comme mode de vie que nous devons avoir en tant qu'Église? Alors, j'aimerais nous rappeler, nous ramener dans la Bible encore. Nous allons relire, pas ajouter. Ce sont deux textes qu'on a lus hier. Et en fait, ces textes vont nous accompagner jusqu'à la fin. Nous serons en train de le répéter, de le relire. Et je pense qu'à la fin de cette semaine, les deux textes auront leur sens vraiment profond. Et je prie que pendant que nous sommes en train de revenir dans ce texte, c'est Ésaïe 58 et Ésaïe 51. J'aimerais que nous relisions ces deux textes à complément à ce que nous avons lu au départ et que nous puissions tirer de ces deux versets bibliques, de ces deux passages, le contenu ou le sens de ce que nous pouvons comprendre comme vie diaconale. Allons-y encore dans Ésaïe 58 et nous allons commencer à partir du verset 6e, comme nous l'avions fait hier. Ésaïe 58, si vous avez vos Bibles dans les téléphones ou je ne sais pas en version papier, c'est mieux que nous puissions lire ensemble. Je peux voir les Bibles qui sont dans la salle, s'il vous plaît? Les Bibles, nous sommes Biblia Zinyeziko, que ce soit le téléphone, que ce soit... Oui, merci beaucoup, que Dieu nous bénisse, voilà. Là, je m'assure que je ne suis pas en train de lire seul ou dans le vide. Allons-y, s'il vous plaît. Nous commençons ce texte avec « Voici le jeûne ». J'aimerais juste dire ici, quand le prophète est en train de dire « Voici le jeûne, c'est l'expression de la foi d'un enfant de Dieu. C'est l'expression d'une piété. C'est l'expression d'une relation. Quand quelqu'un dit « Minengia mumafungo » ou « Je vais aller en jeûne », d'abord, ça signifie plusieurs choses à la fois. C'est quelqu'un qui exprime sa foi et sa relation avec Dieu à travers un acte de privation. Donc, quiconque jeûne, quand nous parlons de la Bible, c'est quelqu'un qui est en train d'exprimer sa piété, sa relation, sa filiation avec Dieu. Et maintenant, le prophète est en train de nous dire, voici comment la vraie relation avec Dieu doit s'exprimer dans notre vie. C'est ça le sens du début de cette phrase, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc, voici le type de filiation, voici le type de discipola. Parce que quand je dis je jeûne, ça veut dire que je prends du temps pour m'asseoir au pied du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Quelle est la direction que tu veux? Qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça le sens de cette phrase, voici le jeûne. Et maintenant, le prophète est en train de dire, oui, je peux jeûner. Je peux me priver la nourriture, je peux me cacher dans une chambre pendant une semaine, pendant un mois, pendant 40 jours. Tout ça, c'est bon. Mais le Seigneur, parlant à son peuple Israël à travers le prophète. Il dit, voici par extension la filiation, le discipulat, la relation que j'attends de vous, comment elle doit s'exprimer. Et donc, quand nous sommes en train de parler de la vie diaconale dans la vie d'un disciple de Christ, voici comment c'est très caractéristique, comment ça doit se retrouver. Alors, lisons, je voudrais donner cette précision, afin que nous comprenions, quand nous commençons au verset 6e, la suite est l'expression de notre relation avec le Seigneur. Allons-y, s'il vous plaît. Si vous avez trouvé le texte, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure le pays et qui rend le pays habitable. Amen. Celui qui restaure le chemin. Celui qui montre le chemin aux autres. C'est lui qui donne la direction. Vous savez, le chemin, quand on dit retrouver ou restaurer le chemin, ça a le sens de reprogrammation, ça a le sens de revalorisation. Quelqu'un qui a perdu le chemin, c'est qu'il a perdu même la direction de sa vie. Alors, l'auteur du texte est en train de montrer qu'à la fin, les actes posés redonnent de la valeur et rendent le pays habitable. Donc, je veux revenir sur beaucoup de points qui sont dans ce texte au courant de la semaine. Je serai en train de prendre des portions selon les sous-points que je prends. Mais déjà, en conclusion, nous pouvons déjà voir que le résultat final d'une vie diaconale vécue parfaitement et de manière sainte contribue à rendre une vie bénéficiaire agréable. Amen. Ça veut dire que quiconque bénéficie ou est en contact avec vous, lorsque vous êtes engagé dans ce que nous appelons la vie diaconale, c'est quelqu'un qui retrouve le chemin de sa vie. C'est quelqu'un qui se retrouve reprogrammé. C'est quelqu'un qui se retrouve revalorisé. C'est quelqu'un qui se retrouve reconsidéré. Et c'est quelqu'un qui retrouve le sens de la vie. Et j'aimerais ajouter maintenant le deuxième texte. Et enfin, nous allons commencer à parler de notre sous-point de ce jour. C'est un texte qui est très connu. La conclusion de 58, c'est dire restaurer le chemin et rendre le pays habitable. Le texte de 61, Ésaïe, il nous dit ceci. On peut encore le lire ensemble. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il faut souligner bonnes nouvelles. Ô malheureux, parce qu'on y reviendra. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Nous retenons encore guérir ceux qui ont les cœurs brisés, la guérison des cœurs brisés. Il dit pour proclamer aux captifs la liberté. Nous pouvons encore retenir le troisième niveau, la libération des captifs. Et il dit aux prisonniers la délivrance. C'est le quatrième niveau. Le quatrième niveau, c'est la délivrance de prisonniers. Pour publier une année de grâce de l'année de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Cinquième niveau, la consolation de ceux qui sont dans l'affliction. Il dit pour accorder aux affligés des sillons et pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Sixième niveau, l'encouragement, la valorisation. Le revêtement, c'est un processus par lequel vous êtes révalorisé. Vous retrouvez votre dignité. Il dit pour leur donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Nous voyons un processus qui a un aboutissement. On est en train de parler des malades, on parle des malheureux, on parle des personnes qui ont les cœurs brisés, on parle des captifs, on parle des affligés. Mais au bout d'un processus, d'un travail qui est réalisé sur ces personnes, toutes ces catégories, la Bible déclare « afin que les gens retrouvent la joie, afin que les gens retrouvent le goût de vivre, afin que ceux qui étaient dans le deuil puissent célébrer, afin que celui qui avait un cœur abattu puisse se retrouver dans la louange. » Et il dit « afin que on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel. » Ça veut dire qu'il y a tout un processus qui transforme des personnes qui autrefois étaient sans identité, étaient malheureux, mais qui désormais peuvent être des gens qui peuvent servir, qui peuvent être un témoignage de la gloire de Dieu. Et la suite, il dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouveleront des villes, et ravagé et dévasté, ainsi de suite. Nous pouvons nous arrêter à ce niveau. Quand nous regardons les deux textes, il y a un processus, il y a des actes qui sont posés, mais qui ont un résultat. J'ai voulu que nous prenions ces deux textes et que ces deux textes nous donnent l'image de ce que nous pouvons considérer ou comprendre comme la vie diaconale. Alors, j'aimerais parler au premier niveau du contenu. Ça veut dire quand nous parlons de la vie diaconale, quel est le contenu, quel est le paquet, qu'est-ce que ça peut signifier pour nous? Je vais aller parler de trois points. Le premier point, c'est que j'aimerais qu'on retienne que le service diaconal ou la vie diaconale telle que voulue par Dieu, c'est un complément important au travail des apôtres. Et cela, nous pouvons le trouver dans Actes des Apôtres, chapitre 6, le verset 3e. Et le verset 4e. C'est un complément important. Les apôtres disent, nous voulons nous focaliser sur la prière, nous voulons nous focaliser sur la prédication, mais nous avons besoin qu'au milieu de vous, le peuple, qu'il y ait des personnes que vous allez choisir et qui vont être un appui au ministère. En effet, à ce temps-là, il était question de s'occuper de la distribution de certains bien de certains avantages qui étaient donnés à des veuves, à des personnes qui étaient dans le besoin, qui étaient en difficulté. Et il s'est levé une dispute parce que ceux qui faisaient le travail n'était pas bien fait en réalité. Au point que Kulikuwa sortait à Upendeleo. Les gens pouvaient donner à leurs amis, à leurs membres de famille, et ça créait un désordre, ça créait des mécontentements. C'était comme un problème au sein de l'Église. Et rapidement, les prophètes, les apôtres, ils ont pris conscience, ils disent non, nous devons mettre de l'ordre, nous devons faire les choses avec justice, nous devons nous assurer que non seulement nous prêchons la parole de Dieu, mais il y a des personnes au milieu de nous, au milieu du peuple, qui ont besoin d'un autre niveau, un autre niveau d'attention par rapport à leur prise en charge de besoins sociaux et économiques. Et donc, nous comprenons que la vie diaconale, nous l'avons déjà exprimé comme un ministère, elle fait partie intégrante de la vie d'une église. Au sein d'une église, nous pouvons beau prêcher la parole, nous pouvons beau prier, mais si nous avons des yeux fermés sur des besoins qui font mal dans la vie au quotidien des membres de l'église, je pense que nous allons être en train de rater quelque chose. Hier, je vous ai donné un exemple. Et c'est des exemples non pas imaginaires, parce que les autres pasteurs qui sont dans la salle, ils peuvent le témoigner. Mon Amalisa Kaibada, le culte était bon, il était merveilleux, les gens ont sauté, les gens ont crié, les gens ont sué. Mais à la fin du culte, je rentre dans mon bureau, je sens quelqu'un toquer. Il dit, papa, la vérité c'est que si Dakula Nini Leo Kunyumba. Ah, c'est ok. Donc, moi, il y a quand même quelqu'un qui pleure, qui se pose la question, et moi, je vais manger quoi? Il dit, Baba, uniombe, mungu anitende mujiza. À un moment donné, tu te dis, si j'ai 5 000 francs, si j'ai 10 dollars, je donne directement. Tu résoudrais irekete'i. En d'autres termes, c'est pour vous dire, au milieu de toute la gloire de Dieu, au milieu d'une parole prêchée puissamment, il y a des personnes qui pleurent, même dans ce même temple-là. Et donc, la vie diaconale, vécue de manière parfaite, vécue de manière sainte, elle nous permet de compléter le travail de prédication et le travail même des intercesseurs. Alléluia. Et donc, c'est très important. Et nous allons voir que ce n'est pas seulement au sein de l'Église, même à l'extérieur, c'est là que Pierre est en train de dire, conduisez-vous d'une certaine manière, que même si quelqu'un peut vous calomnier, mais déjà votre vie, vos bonnes œuvres auront précédé même l'Évangile. Quand quelqu'un viendra prêcher l'Évangile, il dit, j'ai rencontré quelqu'un sur mon chemin. Il a posé des actes de bonté et de charité. Réellement, Christ, il est vrai. Donc, nous avons besoin, la vie diaconale peut précéder l'Évangile, la vie diaconale peut compléter l'Évangile. C'est là que je dis, c'est un complément important. Et les diacres, ils ont joué beaucoup de rôles, beaucoup de choses. Ils ont accompli beaucoup de choses au milieu de l'Église primitive. Ils ont allégé la tâche aux apôtres avec cette dimension d'organisation de cette distribution. Ils ont mis de l'ordre dans l'Église. Ils ont même été chargés de garder les provisions et de les distribuer. Ça, ce sont les détails, mais au moins nous voyons, et j'aimerais qu'on retienne, que vous pouvez, comment je peux mieux le dire? Ça veut dire que du haut de la chair, le pasteur peut prêcher. Il dit, en tant qu'Église, il y a de l'amour. Nous sommes un peuple de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Moi, j'ai juste utilisé un verset biblique. Et un frère, une sœur, un papa, dans l'Église, il voit son frère en difficulté, il pose un acte. La prédication trouve maintenant son sens à travers l'acte que tu viens de poser dans la vie de ton frère. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est à ce niveau-là que je dis que même par ton acte, tu peux prêcher avec ton pasteur. Tu peux compléter la prédication qui a été donnée à l'Église. Aimons-nous les uns les autres. Protégeons-nous les uns les autres. Tu peux venir partager une bonne information à une famille, à ton frère, à ta sœur, et le frère peut retrouver du travail grâce à ton information. Il y a des gens qui, même s'ils connaissent que Undugu akipita hapa tabariki, comment Dieu joue à jalousie, na bouivu, au moins tu as chungé l'information. Dieu rose à la makanisa. La vie diaconale, nous avons dit, ce n'est pas seulement apporter la nourriture à quelqu'un. Ça peut être donner une information qui sauve toute une vie. Une information peut être une porte d'entrée dans une destinée. Alléluia. La vie, nous avons dit que c'est un complément important. Frères et sœurs, j'aimerais que dans l'Église, dans cette paroisse de Sebeka, ville, que nous comprenions que nous pouvons mieux prêcher avec nos pasteurs, avec nos prédicateurs, lorsque nous nous approprions la vie diaconale. Le pasteur peut déclarer quelque chose ici, et la déclaration du pasteur révèle la chair à travers l'acte que tu poses. Et quelqu'un peut dire, on a vu des témoignages dans nos églises, quelqu'un dit, je suis resté à l'église parce que, le premier jour que je suis arrivé à l'église, il y a quelqu'un qui m'a bien salué, quelqu'un qui m'a posé la question comment j'allais. Vous savez, parfois, nous pensons que ce n'est pas nécessaire. Il y a des personnes qui sont seulement bénies. Ça, on a moussalimia, on a moulis, est-ce que tu vas bien? Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as du transport? Est-ce que tu peux prendre ça? Il y a quelques années, avant que je ne commence l'université, j'avais eu un petit boulot. Et ce petit boulot, je crois qu'il me donnait à la limite 100 dollars ou je ne sais plus combien, 100 ou 120. Vers les années 2001 ou 2002, avant que je ne commence les études à l'université. Et à l'époque, il y a un frère qui était très zélé à l'église, qui était mon aîné, qui déjà lui était à l'université. Un jour, j'ai eu seulement à cœur, je voyais, en fait, il me bénissait. À l'époque, on n'avait pas des instruments, on n'avait pas ma micro Zangoufou, ça. Lui, il était seulement au tambour. ce frère-là. Et quand il tapait le tambour, j'étais vraiment au début de ma foi. Et un jour, j'avais 40 dollars. On venait de me payer, tout ça, j'ai fait des dépenses, ça s'est resté. Et je sens dans mon esprit que, ou frère a raté ses cas, mais il est en même temps étudiant. Dieu m'a vraiment convaincu de lui donner au moins 20 dollars. Plus tard, ce frère-là, il a témoigné. Il dit, dans cette église, le frère X, il m'a donné 20 dollars. Pour moi, il a multiplié ça. Il dit, à l'époque, c'était comme s'il me donnait tel chiffre. Tellement que j'avais des problèmes. Et je ne sais pas qui lui a dit que j'étais tellement en difficulté. Cette histoire-là, cet acte m'a béni et m'a permis de comprendre que même dans le répertoire de Dieu, je suis connu. Donc, je peux avoir un besoin. Je ne parlais à personne, mais je sens quelqu'un apporter réellement ce dont j'ai besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu vous convainc d'agir en faveur d'un frère ou d'une sœur, faites-le. Vous ne savez pas ce que le bien-aimé est en train de traverser. Alléluia. Alléluia. Ne retenons pas la vie diaconale. Ça veut dire venir intervenir dans la vie des humains selon leurs besoins, selon leurs défis. Donc nous parlons du complément important. Complément important. Alors la deuxième chose ou le deuxième point que j'aimerais qu'on note, nous sommes en train de comprendre le contenu ou le sens de la vie diaconale. Nous disons que la vie diaconale, c'est le moyen par lequel nous exprimons notre foi et notre amour en répondant aux besoins, aux défis et aux souffrances de personnes qui vivent dans notre environnement. Quand nous nous engageons, quand on nous incite, quand l'Église nous invite à être de diacre dans notre vie en général, pas seulement dans les quatre murs, de vivre la vie diaconale, c'est que c'est un moyen par lequel nous exprimons notre foi. La foi, ça veut dire notre appartenance à la famille de Dieu. La foi, ça signifie j'accepte que tel est mon frère et ma sœur. Vous savez que parfois nous vivons dans les églises, un moment on a dit, mais bon, est-ce que réellement nous sommes tous enfants de Dieu? Là, ni sembla, tu as kuimba, na kupiga ma mikono, on a kuimba pas moi. Est-ce que tu sens que l'autre, c'est ton frère? Est-ce que tu sens que l'autre, c'est ta sœur? Est-ce que tu sens que nous sommes dans la même famille? Alors, le fait que nous sommes engagés dans la vie diaconale et que nous pouvons poser des actes les uns envers les autres, c'est une expression de foi, c'est une confirmation par ces actes que tu es mon frère, tu es ma sœur, au-delà du fait que j'ai des frères et sœurs avec qui on est nés ensemble. Je te considère comme mon frère, mais c'est aussi là le moyen par lequel nous exprimons réellement notre amour. La Bible déclare, enfant, n'aimez pas en parole, mais aussi en acte. Alléluia. Le vrai amour, il s'exprime aussi par des actes. Nous disons, moyen par lequel nous exprimons notre foi. Nous confirmons notre foi. Nous confirmons notre appartenance, notre connexion tous à la famille de Dieu. Et comment nous pouvons exprimer cette foi ou comment nous pouvons exprimer cet amour? Nous parlons de par notre conduite. Nous parlons aussi par nos valeurs. Ok, je vais donner des exemples. Par notre conduite. Je me rappelle, il fut un temps où, c'est juste un exemple banal. Est-ce que dans l'église, un frère, une sœur peut se sentir à confiance de dire que je peux travailler avec mon frère ou ma sœur de l'église à cause de ta conduite? On a dit par exemple, on a vu certains bien-aimés qui sont venus vers nous, les pasteurs, et disent, pasteur, mon appendaka tu sais dire banduga mkanisa. Mais on s'est rendu compte que quand tu donnes du boulot à un frère ou une sœur de l'église, hata ishimi ya kazi inakuwa sa meye tunaoneana mkanisa juu tunaikalaka tu sie bote hivi. Alors, tu lui donnes des instructions, il ne les respecte pas. Et certains disent je préfère prendre quelqu'un de l'extérieur. Il y a quelqu'un qui dit aussi voilà, entre nous les frères et sœurs à l'église, on ne sait pas à faire les affaires ensemble. Parce qu'on est fort dans les chants et dans les prières, mais quand ça atteint la dimension de l'argent, hatuna confiance entre si. Alors, si déjà à l'intérieur, nous avons un problème de conduite et de confiance entre nous, quel message nous pouvons donner à l'extérieur? On voit même dans les églises les gens qui prennent les dettes des autres. Habaziri pak, ase mukanisatu. Kisha milangalia ule ndugu kuna deni yangu sa fe, une année, naye kuna nyosha mikono kuna abudu Mungu ata. Asa angalia ule ndugu naye. Vraiment lui aussi peut lever le main. Et puis à la fin on a mutumia message, nilipe ananyamaza. Alors, peut-être vous ça n'existe pas ici. Nous on a géré des situations comme ça. On est à l'église, ça veut dire une vie diaconale, c'est cette vie qui permet que mon semblable, celui qui est à côté de moi, il est à l'aise par notre conduite. La Bible déclare, ayez une bonne conduite au milieu de païens. Même si à un moment donné, il peut vous calomnier, mais quand il va aller sonder au fond, il dit, attends, avant il va Christ. Et parfois, nous avons des difficultés entre nous. Exprimer notre foi, notre amour, à travers notre conduite envers les frères et sœurs, mais aussi par nos œuvres, par nos œuvres. Et j'en ai déjà parlé, nous pouvons exprimer notre amour, notre foi, en rendant des services aux frères et sœurs. Nous pouvons exprimer notre foi, notre amour envers les bien-aimés, en répondant à leurs besoins, à leurs défis ou à leurs souffrances, en faisant des dons de biens matériels. Ça veut dire notre vie diaconale peut s'exprimer par des dons que nous faisons aux gens, par du matériel que nous donnons. Ça peut s'exprimer aussi par les services. Je vous ai dit, vous pouvez partager une information à quelqu'un qui sauve et qui change sa vie. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a donné une très, très bonne information. En fait, c'était comme me connecter à un de ses amis et ça m'a donné un des meilleurs emplois que j'ai eu. Ce qui est bizarre, ça n'a rien à faire avec un chrétien. Ce n'était même pas un chrétien. Est-ce que nous pouvons faire des choses comme ça qui permettent que réellement nous sommes présents, nous participons à la vie des autres? Et écoutez 1 Timothée chapitre 5, si vous avez cela dans votre Bible. 1 Timothée chapitre 5. J'aime ce texte. Le verset 7e. Déclare leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Verset 8, si vous avez. Si quelqu'un, on peut lire ensemble? Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est comment? Pire qu'un infidèle. La vie diaconale nous amène à cette dimension d'avoir l'attention sur la vie des autres. Et la Bible est en train de dire, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Nous sommes en train de parler d'une vie diaconale qui nous permet d'avoir les yeux, qui peut voir le besoin, les défis et les souffrances des autres. Si nous lisons dans Galates, chapitre 6, Galates, chapitre 6, c'est juste à côté. Galates, c'est juste à côté de Corinthiens, chapitre 6, le verset 9e. Je ne sais pas si le texte est là. J'aimerais qu'on lise encore ensemble. 6, le verset 9. Allons-y ensemble. Ne nous lassons pas de faire le bien. Galates chapitre 6, le verset 9. Ne nous lassons pas de faire quoi? Le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Je vais revenir au courant de la semaine sur cet aspect. Le fait de faire du bien, c'est comme des semences que nous sommes en train de poser. Et dans quelle terre? C'est dans le cœur de Dieu. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. La question peut être, quand je pose le bien, c'est des semences que je dépose dans quelle terre? Ça, c'est une autre réflexion que nous ferons. Mais ce qui est intéressant, il dit, c'est comme des semences. Le verset 10e, allons-y ensemble. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion. Est-ce qu'on peut lire ensemble? J'aimerais mieux vous écouter le verset 10e. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion. Pratiquons le bien. Envers qui? Envers tous. Et surtout envers le frère en la foi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je veux revenir un peu à la fin, en concluant, pour parler des bénéficiaires. Ainsi donc, frères et sœurs, lorsque nous en avons l'occasion, probablement on n'aura pas toujours l'occasion, mais l'auteur du texte dit, nous avons toujours quelquefois des occasions. Et quand tu as l'occasion, fais du bien. Fais du bien, non pas le bien dans le vide. Nous parlons de la vie diaconale. Il y a le destinataire du bien que tu dois faire, que moi je dois faire. Il dit, faisons le bien envers tous. Après qu'il ait parlé envers tout le monde, donc le monde entier, Pierre parlait des païens même. Il dit, mais principalement envers tout, surtout ceux qui sont nos frères et nos sœurs dans la foi. Nous avons dit, la vie diaconale, c'est un moyen par lequel nous exprimons notre foi et notre amour en répondant aux besoins, aux défis et aux souffrances des personnes qui vivent dans notre environnement. Et nous venons de parler, la Bible nous parle de la famille, de l'Église et de la société. Vous savez que Dieu nous fasse vraiment grâce. Dans mon parcours, en tant que chrétien, mais aussi en tant que serviteur de Dieu, j'avais rencontré un incident dans ma vie, c'est que j'ai commencé des affaires avec un de mes jeunes frères, vraiment, et j'ai investi suffisamment d'argent dans cela. Et on a commencé, on a fait presque 2 ans et demi, ou maximum 3, mais ce n'est pas allé dans le sens où réellement je voulais et j'anticipais. On a quitté Goma, on est allé à Kinshasa, tout du début jusqu'à la fin, j'ai pris mon salaire, j'ai pris les réserves, on a investi, tout ça, voilà. C'était suffisamment de l'argent à ce qui me concerne. Vraiment, et sa famille, je l'ai même déplacé. Et le monsieur, il arrive à Kinshasa, comme il y a une matala, comme il y a une hewagani, il commence à bouffer l'argent. Jusqu'à un moment donné, complètement ruiné. Donc, vous avez investi tout l'argent, vous avez pris la maison, vous avez fait, pour ceux qui sont dans les affaires, à cette fin, il y a un business plan, ça indique que Kabisa paie ses rapaces en Ekan. Et réellement, l'argent, il est en Ekan. Mais comme toi, tu es à distance, parfois on dit que je suis à Makuta à distance, c'est d'avoir un machine. Donc, Batakwambia, tout bon, tu ne peux pas t'attendre à panne, ou ceci n'a pas marché. Et à la fin, toi, tu es comme un petit malheureux. Et jusqu'au jour où j'ai dit, bon, attends, que je parte d'abord à Kinshasa pour aller voir qu'est-ce qui se passe. On a qu'à qu'est-ce qui s'est passé? J'étais complètement malheureux. Alors, ça a créé en moi une colère et même une haine. Vraiment une haine. Il est kabisa nasikiaka kisirani ya kweli. Mtu mwenye mulizaliwa naye. Tu dis, mais comment il peut me faire ça? Je comprendrais si c'était quelqu'un à distance. Et ça a été très difficile. Bien aimé dans le Seigneur. Même quand je pouvais le voir en souffrance et que j'ai même la possibilité de l'aider, j'étais très content de dire, naya kome kwanza. Et à un moment donné, jusqu'au jour où je suis en train de prier et ça revient dans mon esprit. Et toi, tu peux vraiment prier? Même si quelqu'un, il a commis du mal, est-ce que tu ne peux pas pardonner? Tu iras jusqu'où avec cette haine? Je vous dis que j'ai vécu cela. Je fais au moins une année, un peu plus, avec cette colère, avec cette colère. Colère est-tu actuellement? Barinikose, nami fonilipiche, qui s'assit? Chrétien, dans l'église, parfois avec la grosse Bible. Mais je ne sais pas ce soir. Un moment, je lis, et la Bible est en train de dire, si quelqu'un ne prend pas soin des siens. Et il est pire qu'un païen. J'ai dit, attends, est-ce que l'ami c'est Ngia Moïse Kipindi? Tout en étant parfois prédicateur de la parole, j'ai de bonnes raisons. Dieu a l'inikoseak. Mais est-ce que c'est un test de foi? Quel type d'enseignement, quel type de leçon Dieu voulait me donner? Jusqu'au jour où un jour je me suis dit, Seigneur, ça a été un choc dur. Ça a été une grosse perte. Mais aujourd'hui, je voudrais que ça soit le passé. Je voudrais me déconnecter. Et je voudrais avoir ce cœur nouveau où je peux être encore en mesure, même si je dois continuer à prendre mes précautions. Franchement, même si je pardonne, je ne peux plus faire les affaires avec lui. Ça, c'est autre chose. Mais en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, si tu vois quelqu'un qui a fait du mal pour toi, comment tu réagis? Et je voudrais nous inviter ce soir à cette réconciliation. Peut-être que tu peux aussi être dans cette église. Tu as connu une perte, tu as connu une déception. Et tu conduis ta vie avec ce sentiment de déception, ce sentiment de faire la vengeance. Il y a des gens comme ça dans l'Église. Mais la vie diaconale, j'aimerais que cette semaine, si tu as vécu des réalités comme ça, que peut-être tu ailles devant le Seigneur pour demander le pardon. Que Dieu t'aide à pardonner et à commencer un nouveau parcours. Le Saint-Esprit est allé même plus loin pour dire, avec cette haine dans ton cœur, avec ce sentiment de vouloir te venger, parce que même la Bible déclare, c'est à Dieu la vengeance et non pas à nous. Tu risques de fermer certaines portes. Tu peux prier le Seigneur, mais ton cœur, il est loin. La troisième chose, ou le troisième point que j'aimerais que nous puissions noter sur ce point, de le sens, la signification large de la vie diaconale, j'aimerais dire la vie diaconale au sein d'une église est le moyen par lequel nous créons un environnement de famille. Est-ce qu'on peut répéter la famille? Oui. Il faut. La vie diaconale, lorsqu'elle est vécue réellement, elle permet que nous puissions créer un environnement de famille. Écoutez, il y a des expressions dans l'Église primitive, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 43. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Dans Actes, chapitre 4, le verset 32, si vous continuez, la lecture dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. » Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient de champs ou de maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et le faisaient des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. C'est vrai, ce passage a parfois des soucis dans notre contexte aujourd'hui. Je sais que quand vous m'entendez, même il y a des questions qui se posent dans la tête et se dit, bon, pasteur, mais qu'on attend seulement. Ile nyumba yangu yenyewe kule kama himbi wala kule kama katindo inakuwa ya kanisa sasa hapa. Comme c'est écrit ici qu'ils avaient tout en commun. Maki le mashamba zangu kule mime yangu na hapa paraissait bengine benye biko juste ne font rien. Inakuwa bien. Alors il faut replacer les choses dans leur contexte. Je me rappelle même il y a quelque temps nous étions dans une réunion de l'équipe pastorale pour dire comment en tant que pasteur, comment en tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, nous pouvons faire en sorte que même le plus démuni, même celui qui est en difficulté, il sent que même sa situation est prise en compte, sa situation est prise en charge. On ne va pas être une église qui distribue l'argent. Ce n'est même pas ça d'ailleurs l'objectif. Mais comment, quand on dit qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent, ça ne veut pas dire que tout le monde avait les poches remplies. Mais en d'autres termes, ça veut dire que dans cette église, quand tu y es entré, tu te sentais que tu appartiens à une famille et ta situation est prise en charge. Et la question dans notre équipe pastorale, c'était... comment on peut répondre à ça dans notre contexte aujourd'hui? Et je vous donne ça comme un devoir en tant qu'Église, les cadres de réflexion. On a invité tous ceux qui sont responsables des départements, les femmes, les hommes, les jeunes, je ne sais pas, les professionnels, les intercesseurs. On a dit, OK, l'union musicale, réfléchissons. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être prises en compte, prises en charge dans des petits groupes. Nous avons des cellules à travers la ville. Comment est-ce que quelqu'un qui est même membre de l'Église, mais dans une cellule à la maison, il sent que je suis connu à l'Église. Et ça, c'est l'expérience qui était dans l'Église primitive. La vie diaconale, l'attention sur chacun, l'attention sur le besoin des uns et des autres, faisait que chacun il se sentait comme membre de la famille. Frères et sœurs, ce soir, j'aimerais que nous comprenions cette dimension de la vie diaconale comme un moyen d'expression de notre foi et de notre amour, comme un complément important au ministère de la prédication et de l'intercession, comme un moyen par lequel nous pouvons transformer notre Église comme une véritable famille. Quiconque arrive ici, si même il n'est pas vu par le pasteur, mais il est récupéré par quelqu'un à la porte, il est récupéré par quelqu'un dans un département, il est récupéré par quelqu'un dans une cellule, et ainsi de suite, et il sent qu'il est réellement dans une famille. Parlons rapidement des finalités ou des buts de la vie diaconale telle que c'est recommandé dans notre enseignement aujourd'hui. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre quatre dimensions de la vie diaconal. D'abord, la dimension. En fait, j'aimerais dire, on ne sait pas expliquer la finalité. Quand je parle de finalité, ça veut dire le résultat. Nous disons, soyons des hommes et des femmes engagés dans la vie. C'est quoi le résultat? C'est quoi le but? La finalité, c'est quoi à la fin? Alors, j'ai voulu prendre quatre dimensions de résultat. D'abord, lorsque nous voyons la dimension, je l'ai appelée dimension évangélique et apostolique. Les actes que nous posons sont comme des bonnes nouvelles que nous apportons dans une vie. Et j'aimerais que nous comprenions que nous sommes des messagers de Dieu dans les vies, dans les familles, dans les environnements où nous sommes. C'est là que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2, vous avez été mis à part afin que vous puissiez proclamer, vous puissiez annoncer les vertus de Dieu. Nous sommes tous envoyés de Dieu. Et quand nous avons lu le chapitre 61 d'Ésaïe, il dit, l'Esprit m'a oint, l'Esprit m'a équipé afin d'apporter les bonnes nouvelles aux malheureux. Dans la dimension évangélique, les actes que nous posons en tant que chrétiens dans cette dimension de vie diaconale, nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. Et quand nous parlons de bonnes nouvelles, nous apportons la consolation. Ça veut dire que quand quelqu'un est en contact avec vous, l'acte que vous posez, c'est une consolation. Il y a quelques temps, ça fait je crois une année, je travaillais dans une structure chrétienne, une organisation chrétienne. Et un jour, nous avions une journée de retraite. Et quand nous avons eu cette journée de retraite, à la fin, nous étions en train de prier. Et quelqu'un, il sort avec une bonne idée. Il dit, mais en réalité, c'est vrai, nous prions. Et puis nous recevons des salaires ici. Les gens nous voient dans des grosses voitures, surtout ceux qui sont dans les ONG. C'est des Land Cruiser. Les gens nous voient avec des gilets, avec des écrits. Les gens nous voient avec des badges. Et puis nous disons que nous sommes chrétiens. OK, chacun a son salaire à la maison, il est content. Mais est-ce qu'en tant que chrétien, quel est notre impact? La question, c'était quel est notre impact dans notre environnement proche? Parce que déjà, à côté du bureau, il y avait des enfants qui étaient comme des maïbobo, donc les enfants de la rue. Il y avait des femmes qui vendaient des petites choses. Peut-être, on a fait qu'on a étalage, qui coûte tout. Peut-être 5 ou à la limite 10 avocats. Ça veut dire qu'il faut une comptabilité, pas les avocats, mais 1000 francs, voilà 1500. Donc quand tu multiplies par 10, tout son capital, c'est 15 000 francs. Et tu te dis, cette maman, elle doit nourrir quelqu'un à la maison. Peut-être pas quelqu'un, elle doit nourrir des enfants. Ses enfants doivent aller à l'école, et ainsi de suite. Et elle passe toute sa journée sous un soleil très accablant. Et puis, c'est juste à la porte de cette grande organisation. Quel est notre impact dans la vie de cette maman? Quand elle nous voit sortir, parfois certains ont déjà eu des embonpoints, donc tellement vous inspirez la vie. Mon apita tout pembeni, il y a une femme malheureuse là à côté. Un jour, quelqu'un dit, est-ce que Kilamuto hésite à pas à ta 10 dollars, tout d'un coup à Batunga. On était 20, ça fait 200. Et que nous puissions sortir un jour, comme on y a la pause. Vous savez qu'il y a même des gens qui mangent tellement que même Baranja Fanya la sport joue à Kupunguza na mafuta. Donc, au chat Kula, au chat Shiba, ça c'est la Baranja Kora Shida. Est-ce que aujourd'hui on a pungusé les mafuta au maïsha abengine? On dit qu'on pungusa mouvide à sport. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Donc, ça veut dire, est-ce que tu as l'attention sur ton environnement? On a réuni environ 200 dollars et on s'est rendu compte que c'était pas compliqué en fait, parce que il y a des gens, moi une semaine en analysant qu'à 10 dollars, je vais quitter tout téléphone ni business. Mais un jour tu peux prendre, il y a même des gens qui dépensent 50, 100 dollars juste pour m'appeler, il y a ma WhatsApp. Na ma vie, tu gagnes ma TikTok. Na ingine ni kazi. Ok. On a pris 200 dollars, on a divisé ça par 4. On s'est dit, tout à toka inje, la pro, ha tout à sema o, mounye tu na koutana tout, il est siku, ou il est étalage. Tu m'patie 50 dollars. Chers amis, il y a une maman, elle a pleuré, alipiga ma goti, ananja tia mikono ilse, joue à 50 dollars. C'est là qu'on s'est rendu compte le niveau de souffrance. C'est là qu'on s'est rendu compte le niveau de bénédiction que tu peux être à poser un acte. La maman a dit, et moi j'ai versé des larmes, elle dit, depuis que j'existe, Missy Agusaka billet à 50 dollars au maïs. Mungu awabariki. Nikipokea kwa baraka ile wakati. Donc, tu t'imagines en fait, ça veut dire il y a un texte que nous lirons hier, les actes que vous posez produisent des actions de grâce devant le trône de Dieu. Alléluia. La vie diaconale. Frères et sœurs, hamutajua baraka gani nyo unaweza jikokotea, Seigneur qu'on a posé le marque. La Bible dit c'est comme des semences. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons autant convenable. Alors, nous sommes en train de dire dans la dimension évangélique, nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Nous sommes ceux qui apportent la consolation. La vie diaconale fait de nous des consolateurs, fait de nous des gens qui redonnent de l'espérance. Comme mon frère est né l'autre fois, je lui ai fait juste un $20. Plus tard, quand il donne le témoignage, mina nisha sahau atake nifanya quelque chose. Je crois que c'était 10 ans plus tard. Il disait, frère, tu sais que tu m'avais donné. Et quand tu m'avais donné ça, ça m'a donné du courage. Ça m'a rappelé que Dieu me connaît. Alors que moi, je posais un acte simple. Dans la dimension prophétique, la Bible est en train de dire que le monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. Je sais qu'ici, le texte parlait des dominations, ainsi de suite. Mais en effet, quand la Bible parle de la sagesse infiniment variée de Dieu, est en train d'expliquer la sagesse, c'est en fait des solutions appliquées à des problèmes. C'est ça ce que ça signifie. Une connaissance convertie en une solution appliquée à un défi. Alors, quand la Bible dit « Le monde connaîtra par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu », c'est tout simplement pour dire « Par l'Église, des gens retrouveront des solutions ». Et Esaïe est en train de dire tu seras le restaurateur de chemin et tu es celui qui va rendre le pays habitable. Nous parlons dans la dimension prophétique. Le résultat d'une vie diaconale fait que quand tu t'engages dans la vie diaconale, tu es en train d'accomplir le mandat de l'Église dans une vie, dans une famille, dans une société. Et je peux même aller sur le terrain de christocentrique. Paul dit qu'on nous trouve, qu'on nous regarde comme serviteurs de Christ. Et même dans un autre texte, il est en train de dire, nous répandons l'odeur de Christ, l'odeur de vie. Donc, la vie diaconale fait que tu présentes Christ. On raconte l'histoire d'un serviteur, je crois qu'il était en Inde. Il a vécu dans un village, je ne connais plus le nom, mais il a vécu, il n'a jamais ouvert la Bible, il n'a jamais parlé. Et il semble que plus tard, la personne est rentrée ou il est décédé, je ne sais plus. Et puis, il y a d'autres missionnaires qui sont venus. Kishabaranja fundisha aseme Yesu wa kumusalaba. Ils ont décrit Christ. Et ils ont commencé à dire, ah, njole muze mwetu kwa kanaona mu village etu. Aseme apana, Yesu wa mubibilia se apana, si atuju Yesu, ule mwenye alikutanguliaka panjo Yesu. Ils ont vécu les valeurs de Christ. Frères et sœurs, dans nos entreprises, dans nos familles, est-ce que les gens peuvent retrouver Christ? La finalité des actes que nous posons, c'est que des gens racontent Christ. C'est la dimension christocentrique de la vie diaconale. Et enfin, je parlerai de la dimension doctrinale. La Bible déclare, l'Église repose sur les enseignements des apôtres. Ça veut dire, ce que nous avons vu les apôtres, ils nous ont donné un modèle. La vie diaconale doit faire partie de notre vie au quotidien. Je clôture pour dire qui sont les bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est notre famille, les membres de nos familles. La Bible déclare, celui qui ne prend pas soin des membres de sa famille, il est pire qu'un païen. La Bible parle de si nous avons l'occasion. Deuxième niveau, c'est notre Église. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. La Bible est en train de faire mention de l'Église. Et quand il dit envers tous, c'est tous ceux qui sont dans le monde. 1 Pierre chapitre 2 dit, ayez une conduite bonne au milieu de païens. Ce soir, je voudrais m'arrêter ici. Nous allons prendre peut-être 2 ou 3 minutes pour prier le Seigneur. Nous étions en train de parler de la signification large, la compréhension large du sens de la vie diaconale. Nous avons dit que c'est un complément important au ministère des apôtres, des prédicateurs, des pasteurs. Nous avons montré que c'est un moyen par lequel nous exprimons notre foi et notre amour en répondant aux besoins, aux défis et aux souffrances des personnes qui vivent dans notre environnement. Nous avons montré que la vie diaconale au sein d'une église est le moyen par lequel nous créons un environnement réellement de famille. Ensuite, nous avons parlé des finalités, des buts ou des résultats que cela peut apporter. Est-ce que nous pouvons nous lever pendant quelques minutes et prier Dieu? Alors, la prière de ce soir, je veux que chacun dise à Dieu, je demande que tu m'aides. Ceux qui sont déjà engagés dans la vie diaconale telle que voulue par notre Église et la parole de Dieu, gloire à Dieu. Si vous avez des raisons, peut-être qui vous empêchez de le faire, tu vas dire à Dieu, aide-moi. Prions le Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Seigneur, merci. Nous avons besoin de toi encore ce soir. Tu nous as parlé, tu as parlé à notre cœur. Mon Dieu est mon roi. Nous voulons que ce que nous posons comme acte, ce que nous rendons comme service, puisse produire des actions de grâce devant toi, puisse être un sujet de consolation. Je veux qu'un cœur soit consolé. Je veux qu'un cœur soit encouragé, Seigneur. Je veux que des âmes reviennent à toi lorsque nous allons nous lever et aller vers. Je veux que même dans mon église, un frère, une sœur soit encouragé, reconnaisse que Dieu me connaît dans son calendrier parce que quelqu'un lui a fait du bien. Seigneur, soutiens l'église. Merci, Seigneur, pour ta parole. Je prie que le Saint-Esprit amplifie cette parole dans notre cœur et nous aide à saisir ta pensée. Bénis, Seigneur, le reste de la semaine. Alors que nous continuons à parler de ce sujet, mobilise ton peuple afin que nous soyons tous là et que Dieu, au-delà de ce que nous écoutons, que tu nous aides à être des hommes et des femmes, disciples et qui reflètent la vie de Christ. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.